Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, dans quelques instants, le quiz biblique en direct avec Jérôme.
Voilà, chers amis auditeurs, quelle entrée en matière. Bonjour à tous, c'est le quiz biblique et bonjour Sandrine.
Bonjour Jérôme.
Oui, voilà, nous sommes là, nous sommes plutôt dans l'Ancien Testament. Il y a eu des batailles dans l'Ancien Testament. On va peut-être d'ailleurs en parler pendant ce quiz biblique. En tout cas, chers amis auditeurs, c'est parti. Vous êtes donc les bienvenus pour venir participer et jouer ce petit moment que nous avons le vendredi ensemble avec Sandrine et tous les animaux.
Ça, c'est déjà le numéro. On va commencer
bizarre,
par les...
Ah, voilà, donc on a tout là aujourd'hui. Voilà, chers amis auditeurs, non, nous ne sommes pas au bout de notre rouleau, mais nous attendons votre appel.
C'est quoi la musique ?
C'est du son qui se parfume.
C'est quoi l'émotion ?
C'est l'âme qui s'allume.
C'est quoi un compliment ?
Un baiser invisible.
Et la nostalgie ?
Du passé comestible.
C'est quoi l'insouciance ?
C'est du temps que l'on sème.
C'est quoi le bon temps ?
C'est ta main dans la mienne.
C'est quoi l'enthousiasme ?
C'est des rêves qui militent.
Et la bienveillance ?
Les anges qui s'invitent.
Et c'est quoi l'espoir ?
Du bonheur qui attend.
Et un arc-en-ciel ?
Un monument au vivant.
C'est quoi grandir ?
C'est fabriquer des premières fois.
Et c'est quoi l'enfance ?
De la tendresse en pyjama. C'est un peu de tout ça, mais surtout c'est toi. C'est toi.
C'est quoi le remords ?
C'est un fantôme qui flâne.
Et la routine ?
Les envies qui se fanent.
C'est quoi l'essentiel ?
C'est de toujours y croire.
Et un souvenir ?
Un dessin sur la mémoire.
C'est quoi un sourire ?
C'est du vent dans les voiles.
Et la poésie ?
Une épuisette à étoiles.
Un très très joli chant, hein. Alors, rien à voir avec le premier. Voilà, on s'en fiche, hein, on y va. Voilà, le quiz biblique c'est parti, je crois que nous avons déjà quelqu'un avec nous.
Oui, Jean-Mathieu est avec nous.
Jean-Mathieu.
Bonjour Jean-Mathieu.
Bonjour.
Bonjour.
Alors Jean-Mathieu, bienvenue dans ce quiz biblique. Et pour l'instant Jean-Mathieu, vous êtes le premier, le seul. Alors donc j'invite vraiment ceux qui nous écoutent à ne pas hésiter à intervenir pour participer, venir jouer avec Jean-Mathieu. Jean-Mathieu, est-ce qu'on est prêt ?
Oui.
Est-ce qu'on est là, bien posé, bien campé ?
Oui, on est campé là.
On est campé. Alors c'est parti.
Sous la tente.
Sous la tente. Alors on va commencer avec la première question. Première question, Jean-Mathieu, quelle est l'expression biblique qui désigne à la fois l'image de la chose impure, dégoûtante, idolâtrique ? Et en même temps l'image de la ruine, de la destruction. Alors cette expression qu'il faut trouver, à l'origine, elle désignait l'autel de Zeus, ou bien sa statue, le grand dieu grec, là, qui avait été érigé en 168-167 avant Jésus-Christ dans le temple de Jérusalem. On avait mis la statue de Zeus dans le temple de Jérusalem. Quelle est donc cette expression biblique qui désigne... Alors pour les juifs, bien sûr, c'était une horreur. Trois possibilités, Jean-Mathieu.
Oui.
Le crime contre Dieu. La deuxième, l'abomination de la dévastation. La troisième, l'infamie des idolâtres. Quelle est donc cette expression?
Je pense que c'est la troisième.
L'infamie des idolâtres pour Jean-Mathieu. Eh bien, c'est la deuxième, Jean-Mathieu. C'est l'abomination de la dévastation. Bon, la question n'est pas facile.
J'ai hésité, je voulais dire la deuxième, mais après j'ai dit la troisième.
Elle n'est pas facile pour connaître, mais effectivement, c'est l'abomination de la dévastation. C'est une expression, d'ailleurs, qui va être reprise dans les évangiles de Matthieu et de Marc comme signe de la fin des temps.
Ah ouais, d'accord.
Et on trouve ainsi l'expression dans les passages apocalyptiques de ces évangiles, parce qu'on sait qu'il y a une petite apocalypse dans ces évangiles. Je vais vous citer par exemple Matthieu chapitre 24 à partir du verset 15. « Lors donc que vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, installée dans le saint lieu, que le lecteur comprenne, alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui sera sur la terrasse ne descende pas dans sa maison pour prendre ses affaires, et que celui qui sera au champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. » Image apocalyptique. Ouais. Voilà, et l'abomination de la dévastation. Mais historiquement, originellement, c'est bien cette statue grecque qu'on a placée en plein milieu du temple. Voilà, je crois que nous avons quelqu'un d'autre.
Oui, nous avons Elisabeth qui vient nous rejoindre. Et... Bonjour.
Bonjour Elisabeth.
Bonjour.
Elisabeth ?
Alors,
oui, ça y est, c'est à vous.
Bonjour Elisabeth.
Bonjour Jean.
Bienvenue dans le quiz.
Merci.
Alors, on sait que Jean-Mathieu nous appelle de la région Rhône-Alpes. Et vous, Elisabeth, vous appelez d'où ?
J'appelle de l'Oise, à Montataire.
Au nord de Paris. Dans l'Oise, c'est ça ?
Voilà.
Eh bien, en tout cas, bienvenue, Elisabeth. Est-ce que c'est vous, Elisabeth, qui, de temps en temps, transmettez des SMS ?
Oui,
ah,
c'est moi.
Ah, voilà, voilà, voilà.
Bienvenue.
Voilà, c'est moi.
Eh bien, en tout cas, bienvenue. Et je rappelle à nos auditeurs, ceux qui nous écoutent, qu'ils n'hésitent pas à intervenir pour venir se joindre à Elisabeth et à Jean-Mathieu dans ce quiz biblique. Ouais.
Voilà, et on a reçu aussi un autre SMS, du coup cette fois c'est Marie-Lourde. Salut Sandrine et Jérôme, je suis de tout cœur avec vous comme d'habitude et désolée je ne peux pas participer parce que le vendredi c'est très compliqué pour moi avec les livraisons. J'espère que les fidèles seront là. Bon quiz et donc Marie-Lourde.
Eh bien on salue vraiment Marie-Lourde, on salue Marie-Lourde, merci de nous avoir écrit et puis bon courage pour cet après-midi chargé. Voilà, et eh bien écoutez, nous sommes en plein dans le quiz biblique. Nous avons commencé avec Jean-Mathieu pour la première question. Donc Elisabeth, c'est à votre tour. Elisabeth, est-ce que vous êtes prête ?
Oui.
Alors la question, comment s'appelle ce groupe de juifs qui, au deuxième siècle avant Jésus-Christ, deux siècles avant Jésus-Christ, se révolta contre la puissante dynastie des Séleucides ? Séleucides qui occupaient un petit peu la terre d'Israël. Et ces juifs, ils se sont révoltés pour défendre et pour préserver la pureté.
Je ne vous entends pas bien.
Ah. Ouais. Alors, est-ce que... Voilà, on va régler peut-être le son. Du coup, moi, je vais parler fort, là. Voilà, est-ce que vous m'entendez mieux, là, Elisabeth ?
Oui, oui.
Alors, je reprends la question. Comment s'appelle ce groupe de juifs qui, au IIe siècle avant Jésus-Christ, se révolta contre la puissante dynastie des Séleucides, afin de défendre et de préserver la pureté de la tradition religieuse juive. Alors leur récit, le récit de cette révolte, fait l'objet de deux livres de la Bible hébraïque, de l'Ancien Testament. Comment s'appelle donc ce groupe de juifs ? Trois possibilités, Elisabeth.
Oui.
La première, les Lagides.
Les
Lagides.
Oui.
La deuxième, les Maccabées. La troisième, les Manassés. Les Lagides, les Maccabées. Les Manassés, comment s'appelle ce groupe de juifs qui se révolta au IIe siècle avant Jésus-Christ pour défendre leur tradition religieuse ?
Je dirais les Maccabées.
Et c'est une excellente réponse d'Elisabeth. Et oui, c'est les Maccabées. On l'a dit, ça fait l'objet de deux livres. Et il y a deux livres, livre 1, livre 2 des Maccabées. Cette révolte des Maccabées se déroule de 175 à 140 avant Jésus-Christ. Elle est une... Elle est à la fois... Ah, j'entends quelqu'un derrière. Ah, c'est Jean-Mathieu. C'est chez Jean-Mathieu qu'on parle. Alors, cette révolte des Maccabées, elle est à la fois une révolte des Juifs de Judée contre les Séleucides qui étaient l'occupant, mais c'est aussi un conflit interne au peuple juif qui opposait les traditionalistes aux Juifs hellénisants, c'est-à-dire ceux qui acceptaient les nouvelles coutumes qui venaient de la Grèce, de la culture grecque. Voilà, très très bonne réponse d'Elisabeth. Cet épisode, il est raconté dans les deux premiers livres des Maccabées. Voilà. Et nous continuons avec Jean-Mathieu.
Oui.
Voilà, Jean-Mathieu, c'est parti, oui, nous sommes dans le quiz biblique. On va rester encore un petit peu avec les Maccabées. La victoire, on sait que donc les Maccabées vont finalement gagner. Ils vont remporter la victoire contre leurs occupants, les Séleucides. Alors la victoire des Maccabées, c'est la victoire de la loi juive. Et elle eut pour conséquence d'accentuer davantage la séparation entre les Juifs et leurs voisins païens. Mais de 142 à 63 avant Jésus-Christ, Israël retrouva l'indépendance politique. Ce qui était une bonne chose. Ils avaient gagné, ils avaient restauré la loi juive, ils avaient retrouvé leur indépendance dans cette période de 142 à 63 avant Jésus-Christ. Mais qui a mis fin à cette indépendance en 63 ? Je précise, on est bien avant Jésus-Christ. Qui a mis fin à cette indépendance en 63 ? Jean-Mathieu, s'agit-il des Romains, des Égyptiens ou des Syriens? Qui
Je pense que c'est les Syriens.
Qui a envahi cette région d'Israël en 63?
L'Égypte.
Les Égyptiens pour Jean-Mathieu. Elisabeth, qu'est-ce que vous en pensez? Elisabeth, where are you? Elisabeth, avons-nous perdu Elisabeth? Il n'y a plus de son. Alors peut-être que ça a coupé. Alors Elisabeth, peut-être que vous nous entendez quand même. Et si c'est le cas... Elisabeth, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous.
Ah, vous avez perdu une seconde.
Je suis là, j'essaie d'augmenter le volume pour mieux entendre.
Alors, est-ce que vous avez entendu déjà la question posée à Jean-Mathieu?
Non.
Alors, on a parlé tout à l'heure des Maccabées. Les Maccabées vont remporter une victoire et ils vont défendre la loi juive. Et grâce à cette victoire, ils vont pouvoir retrouver leur indépendance politique. Et cette indépendance, elle va durer de 142 à 63 avant Jésus-Christ. Alors, qui a mis fin à cette indépendance en 63? Toujours avant Jésus-Christ, bien sûr. En 63, qui a mis fin à cette indépendance? Alors, les Romains, les Égyptiens ou les Syriens? Jean-Mathieu a répondu les Égyptiens.
Les Romains.
Les Romains, c'est une bonne réponse d'Elisabeth. Oui, ce sont les Romains, c'est les Romains qui ont envahi la terre avec Pompée à leur tête. Pompée, chef militaire romain, rival de César, qui mit fin à l'indépendance d'Israël, puisqu'il va s'emparer de Jérusalem en 63. Et il va...
Je pense que le moteur n'est pas chaud encore, c'est pour ça que...
Oui, il faut chauffer le moteur. Jean-Mathieu, c'est un moteur diesel. Donc il chauffe, mais alors après, par contre, il ne s'arrête plus. Oui, les Romains sortent de Jérusalem en 63, ils réalisent la conquête et l'annexion de la Syrie à l'Empire romain. Alors Pompée, quand même, il faut préciser que Pompée n'a pas pillé le temple, ce qui est déjà pas trop mal, parce que d'autres envahisseurs ne s'étaient pas gênés. Il ne pilla pas le temple, il autorisa le culte juif. C'est Pompée qui va créer la province romaine de Syrie, et qui va aussi fonder la Décapole. Voilà, c'est une très bonne réponse d'Elisabeth. C'était une question posée à Jean-Mathieu. Question suivante, donc, pour Elisabeth.
Ouais.
Elisabeth, are you ready?
Yeah.
Yeah, she's ready. Dans le récit, okay. Et on reste avec les Maccabées, dans le récit des Maccabées, au deuxième livre des Maccabées, quel récit de martyr a été retenu par la tradition chrétienne? Vraiment, qui a été retenu, dont on a beaucoup, qui a été beaucoup commenté, un grand récit qui parle d'un affreux martyr dans ce deuxième livre des Maccabées, Elisabeth, trois possibilités. S'agit-il du martyr de deux femmes juives? S'agit-il du martyr d'un grand prêtre? Ou s'agit-il du martyr d'une mère et de ses sept fils? De quel martyr très connue, enfin en tout cas bien retenue par la tradition chrétienne, a été retenue dans ce livre, de second livre des Maccabées, martyr impitoyable, hein, deux femmes juives, un prêtre.
Mère des sept fils.
Et oui, c'est une excellente réponse, Elisabeth. Et oui, c'est une mère avec ses sept enfants.
Ouais.
On est dans le deuxième livre des Maccabées, c'est le chapitre 7, pour ceux qui veulent s'y reporter. On l'a dit tout à l'heure, hein, Israël est sous la domination de la dynastie des Séleucides. Alors les sept frères, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait les sept frères? Eh bien, ils refusent de renier leur tradition religieuse. Ils vont être torturés, ils vont être tués en une seule journée devant leur mère, qui va supporter courageusement leur martyr en invoquant le Créateur avant de mourir à son tour. Alors ce récit, il a été appelé par la suite « Passion des saints Maccabées ». Il a eu une large diffusion et il a servi aussi de modèle à divers actes des martyrs. Actes de martyrs qui ont été écrits par la suite. Eh bien, c'est une excellente réponse, Elisabeth. On continue ce quiz, on est avec Jean-Mathieu. Et on invite aussi ceux qui nous écoutent à venir ne pas hésiter à appeler. Il y a encore de la place. Oui, on a mis des couverts, mais il y a des chaises qui sont vides. Alors, Jean-Mathieu.
Oui.
On reste dans ce même récit. Et juste, on a parlé de ce récit très, très, très marquant, hein, de cette mère qui voit ses sept fils mourir devant elle. Et c'est juste, ça se passe au chapitre 7, mais juste avant le chapitre 7 de ce deuxième livre des Maccabées, il y a un autre récit de martyr qui est raconté. Et il s'agit d'Éléazar. Et Éléazar, il est docteur de la loi, c'est un homme qui est déjà avancé en âge, et qui va être tué au supplice de la roue. Alors qu'est-ce que ses adversaires lui demandaient de faire pour ne pas être tué? En gros, il lui disait, voilà, si tu fais ça, tu ne seras pas tué. Alors, possibilité, Jean-Mathieu. Il lui demandait de cracher sur un rouleau de la Torah, ou bien de manger de la chair de porc, ou bien de sacrifier aux idoles païennes. Qu'est-ce qu'il lui demandait de faire pour lui dire, bah, écoute, si tu fais ça, on épargne ta vie.
Répétez la question, s'il vous plaît.
Alors, il s'agit d'Éléazar, docteur de la loi, homme déjà avancé en âge, qui va être également un martyr dans ce texte du livre des Maccabées. Et qu'est-ce que les adversaires de ce monsieur vont lui demander de faire pour ne pas être tué? Ils vont lui demander de cracher sur un rouleau de la Torah, ou de manger de la chair de porc, ou bien de sacrifier aux idoles païennes.
Je crois que c'est la première, cracher sur
un rouleau de la Torah. Elisabeth, est-ce que vous avez une idée?
Oui.
La même ou une autre?
Non. Je dirais manger de la chair de porc.
Et oui, c'est une bonne réponse. Ouh là là, elle est calée, Elisabeth. Hein.
Elle est calée, là.
Hein. Ouh là là, elle est calée. Ah bah, on entend d'ailleurs...
Elle est plus calée que moi, là, finalement.
Oui, effectivement. Bon,
Jean-Mathieu, il est trop fort.
Voilà, bah, c'est vrai que...
Jean-Mathieu, je suis ton supporter, hein.
Non, c'est pas sûr.
Voilà.
Voilà, j'ai trouvé mon maître. Là.
Jean-Mathieu a fait des élèves, et parfois l'élève dépasse le maître.
Voilà, c'est ça.
Oui, c'est une bonne question, c'est manger la chair de porc. Vous pouvez vous reporter au livre 2 des Maccabées, chapitre 6, à partir du verset 18. Ses adversaires, ils lui donnent à manger de la chair de porc, et ce pauvre Éléazar, il va au supplice en recrachant sa bouchée. Pour montrer que non, il ne mangera pas le porc. On lui propose même, dans le texte, de faire semblant de manger ce porc. Et Éléazar ne veut pas attirer sur sa vieillesse, souillure et déshonneur. Il veut rester fidèle au Tout-Puissant. Alors à la fin, ce récit nous dit qu'Éléazar laisse dans sa persécution un exemple de courage et un mémorial de vertu auprès de la jeunesse et même d'une grande partie de la nation d'Israël. Et les pères de l'Église, après, quelques siècles plus tard, on louait en Éléazar un martyr d'avant le Christ. Voilà, c'était pour ce passage, parce qu'effectivement on a parlé de ce martyr de cette mère avec ses sept fils, mais aussi ce Éléazar au chapitre 6, juste avant, qui précède, voilà, pour ces différentes scènes de martyrs dans l'Ancien Testament. Eh bien, pour la question suivante, chers amis auditeurs, nous sommes avec Sandrine, avec Jean-Mathieu, non, avec Elisabeth. Je vais y arriver.
Oui.
Elisabeth.
Yes.
Alors, qu'est-ce que le Saint des Saints pour Israël? Elle est courte, là. Qu'est-ce que le Saint des Saints pour Israël? Trois possibilités, Elisabeth. un autre nom pour désigner le Messie attendu, ou bien le peuple élu lui-même, l'ensemble du peuple d'Israël, ou bien une chambre cubique située dans le temple.
Le troisième, chambre.
Oh là 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 là, Elisabeth, c'est une excellente réponse. Et oui, une chambre cubique de 4,40 m de côté, située dans le temple de Jérusalem derrière le Saint. Il y a d'abord la première pièce qu'on a appelée le Saint, et derrière, au fond, il y a le Saint des Saints. Alors, totalement obscure et vide, elle est le lieu par excellence de la présence divine. Elle est accessible une fois par an au seul grand prêtre. Alors, vous vous souvenez tout à l'heure, dans les questions précédentes, on a mentionné Pompée qui avait envahi Jérusalem en 63. Et l'histoire a retenu d'ailleurs que Pompée, parce qu'il était curieux, il disait « Mais comment ça se fait, vous avez un dieu au fond là, dans cette pièce, que vous appelez le Saint des Saints, je veux aller voir. » Et il est allé voir Pompée. Il a pénétré dans le Saint des Saints du Temple de Jérusalem, ce qui d'ailleurs constituait un sacrilège pour les Juifs, bien sûr, puisque seul le grand prêtre pouvait y entrer.
Ah, c'est que le grand prêtre qui est rentré dedans.
Mais il est quand même rentré, Pompée, parce qu'il voulait voir. Mais il ne toucha à rien. Et il paraît que l'histoire a retenu qu'il a été extrêmement surpris de ne rien voir. Ben oui, parce que chez les Romains, il y avait des statues. Chez les Romains, il y avait des immenses statues de Zeus, de Jupiter et d'autres dieux. Et là, il n'y avait rien. Alors, voilà pour cette question, en tout cas. Excellente réponse, Elisabeth. Ou disons, celui-là, il te rentre dans les oreilles. Il te plaît un peu. Et voilà. Mais c'était l'aigle. La puissance de l'aigle. Alors, nous sommes avec Jean-Mathieu pour la question suivante.
Oui.
Jean-Mathieu, cette fois, nous sommes au 1er siècle. Et c'est une question de géographie, Jean-Mathieu. Au 1er siècle, la question, elle est simple. Quelle était à peu près, en ordre de grandeur, la superficie de la terre d'Israël, ou qu'on appelle aussi de la Judée? Quelle était un peu la taille, la superficie de ce pays, de cette terre d'Israël, à peu près, Alors, Jean-Mathieu, trois possibilités. La première, comparable à la superficie du département des Landes, ou bien de la région Bretagne, ou bien du pays, le Portugal. Quelle était
Je pense que c'est la Bretagne.
La Bretagne pour Jean-Mathieu, c'est une excellente réponse, Jean-Mathieu, qui se rattrape avec la géographie. Oui, on y va. On imagine, c'est pas si grand, et en même temps, voilà, bon, c'est quand même conséquent. En tout cas, c'est pas la taille qui a fait la force de l'histoire de ce peuple. Environ, on dit à peu près 25 000 km². Elle formait un quadrilatère d'environ 250 km de long du nord au sud et de 40 à 140 km de large. Soit donc la superficie de la Bretagne ou de la Sicile ou de la Belgique. Voilà pour la superficie de la terre d'Israël au 1er siècle. Excellente réponse de Jean-Mathieu. Et nous poursuivons avec Elisabeth.
Oui.
Ah, l'air de la mer. C'est la Bretagne, en fait, que tu nous as mis sans doute. Alors là, on est à la pointe du Raz. On est vraiment tout au bout de la France. Vous voyez la France, tout au bout, là, complètement à l'ouest. Il y a les mouettes. J'ai presque envie de me baigner là. Alors, Elisabeth.
Oui.
Quelle partie du territoire, on est toujours sur la terre d'Israël, quelle partie du territoire fournissait abondamment le sel dans cette Palestine du 1er siècle? Question très difficile. Quelle partie du territoire fournissait abondamment le sel dans cette Palestine du 1er siècle? Trois possibilités. La côte méditerranéenne, première. Deuxièmement, le Haut-Jourdain. Troisièmement, la mer morte.
Troisième.
Et oui, la mer morte, Elisabeth, sans hésitation. Et oui, c'est la mer morte. Alors, le sel, il est fourni en abondance par les eaux de la mer morte, ou qu'on appelait également la mer de sel. Alors, on trouve également le nom de la mer de Araba, qui veut dire mer salée, c'est désigné dans le Deutéronome, chapitre 3, verset 17. La Araba, la mer salée. Excellente Réponse.
La mer morte, on peut glisser dessus, on coule pas dans l'histoire.
Oui, il paraît qu'on flotte, on coule pas, pour ceux qui ont essayé.
Ah, mais j'y étais, moi. Et... Pourquoi je vous dis ça?
Vous l'avez fait, Jean-Mathieu?
Oui, j'y étais, je suis allé à Jérusalem, moi.
Mais bah, il est fort!
Mais c'est pour ça qu'il est fort, Jean-Mathieu.
En 99, j'y suis allé.
Ah, mais c'est pour ça qu'il est fort au quiz biblique, Jean-Mathieu, voilà. C'est parce qu'il est en plus, il est allé voir les lieux même.
Voilà.
Aïe, 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 aïe. Mais alors, Jean-Mathieu, il faut prendre une douche, j'imagine, après, parce que le sel...
Ouais, c'est ça, ouais. Après, il faut prendre la douche, ouais.
Ah oui, parce que le sel, ça s'accroche à la peau, là, et ça doit être irritant.
Et on flotte, c'est comme on coule pas dans les sorts, on flotte.
Voilà, on se laisse, on se pose sur l'eau et on flotte.
Ouais, ouais. Ah. Même tu peux, on peut marcher dessus.
Oh là là, je pourrais enfin marcher sur l'eau? C'est ça que vous êtes en train de me dire?
Ouais.
Ah là là, moi aussi alors je vais marcher sur l'eau. Moi, j'y suis pas encore allé. Alors on continue, Jean-Mathieu avec vous pour la question suivante.
Oui.
Alors toujours, on est toujours chez au temps des Hébreux. Au temps des Hébreux, quel animal sauvage, ben, cette fois on est dans la faune, quel animal sauvage pouvait se manifester jusque dans les pâturages de Judée? Ben, tranquille, hein, chacun a son petit jardin, son petit pâturage. Cet animal sauvage qui pouvait se manifester dans les pâturages de Judée, trois possibilités, Jean-Mathieu. Le lion, la hyène ou le crocodile. Quel est donc cet animal sauvage qui pouvait se manifester jusque dans les pâturages de Judée au siècle voilà, biblique, y compris même jusqu'au premier siècle.
Vous avez dit le lion ?
Le lion, la hyène ou le crocodile.
Si je ne me trompe pas, c'est le lion, je pense.
Eh bien, c'est une excellente réponse.
Oh, amateur.
D'ailleurs, il est avec nous, le lion. Ah, Sandrine, il ne faut pas ouvrir la cage. Hein. Et oui, c'est le lion. Il y a plein de références bibliques. Alors, par exemple, Jérémie, chapitre 49, verset 19. Tel un lion qui monte de la jungle, du Jourdain, vers des enclos toujours animés, ainsi, en un clin d'œil, je les fais déguerpir loin d'elle, je dépêche contre elle de jeunes guerriers. Alors ça, c'est Yahvé qui parle en chassant les habitants d'Édom, en faisant cette comparaison avec le lion. Et en général, c'est des passages où le Tout-Puissant annonce par des images la dévastation d'Édom.
C'est pour ça que j'ai dit ça, parce que il n'a jamais parlé de crocodile ni de hyène.
Exactement, par élimination. Très bien joué, Jean-Mathieu, effectivement. Bon, alors pourquoi les lions? Ben parce qu'on n'est quand même pas très loin de l'Afrique, de l'Arabie. Il y avait encore des lions à l'époque, et des lions qui pouvaient venir du désert. Et en raison de sa force, également pour le sens biblique, en raison de sa force, le lion caractérise soit l'ennemi brutal, soit aussi la parole puissante de Dieu. Soit aussi la victoire du héros, ou ce qu'on a appelé le lion de Judas.
Ouais.
Ouais, Judas, c'est du lion, ouais.
Le lion de Judas, c'est aussi une expression qui revient. Et justement, la question suivante, elle est sur le lion de Judas, elle est pour Elisabeth. Alors, le lion de Judas, il a pour origine, on trouve l'expression la première fois dans le livre de la Genèse, dans lequel le lion est l'emblème de la tribu de Judas, parce que Judas, c'était une tribu. Et par extension, ce lion va devenir l'emblème du peuple juif qui descend de la tribu de Judas. Donc c'est un symbole important hein, pour les juifs, c'est un symbole national et culturel. Aujourd'hui encore, il figure sur l'emblème de la ville de Jérusalem, le lion. Mais alors là c'était pour les Hébreux, pour les Juifs, mais dans le christianisme, qui désigne le lion de Judas? Élisabeth, qui désigne le lion de Judas? Trois possibilités.
Mmh.
Jean le Baptiste, le Christ ou Pierre, l'apôtre?
Le Christ.
Et oui, c'est le Christ, évidemment. Excellente réponse d'Élisabeth. Alors, par exemple, vous pouvez vous référer au livre de l'Apocalypse. Et d'après le livre de l'Apocalypse, et selon la tradition chrétienne, le lion désignera Jésus-Christ. Alors, Apocalypse 5:5, chapitre 5, verset 5. Alors, le Christ qui est désigné aussi, évidemment, sous le terme de l'agneau. Donc, c'est le lion et l'agneau, hein, deux images, nom de Dieu, qui sont utilisés dans les écritures.
De symboles
pour utiliser dans les écritures pour décrire des aspects de Jésus-Christ. Alors, les attributs physiques compris de chaque créature terrestre indiquent souvent les attributs spirituels de Jésus.
Il est parti à l'abattoir comme un agneau.
Exactement. Jésus-Christ qui est puissant et majestueux qu'un lion et innocent comme un agneau sacrificiel, comme l'a dit à l'instant Jean-Mathieu. Excellente réponse de tous les côtés cette fois. Hein. C'est un festival. Alors, combien de temps il reste ? Est-ce qu'on a encore un peu le temps ? Alors, question pour Jean-Mathieu. Question pour tous les deux. Allez. Avant de terminer ce quiz, alors, quel antique métier, vieux métier, mais qui existe peut-être encore aujourd'hui, hein. En tout cas, quel antique métier sert par métaphore, par image, à illustrer la souveraine liberté de Dieu vis-à-vis de ses créatures et même l'acte de création. Quel est donc cet antique métier qui sert donc à désigner la souveraine liberté de Dieu vis-à-vis de ses créatures ? Trois possibilités. Charpentier. Vannier, celui qui fait des paniers en osier par exemple. Ou potier.
Potier.
Oh là là, Jean-Mathieu. Mathieu, rapide, tout de suite, potier, c'est effectivement une bonne réponse. Vous trouvez des références bibliques, il y en a plein, je ne les ai pas toutes écrites parce qu'il y en a vraiment plein. Le livre du Siracide, de 38-29, Genèse 2-7, le livre de la sagesse, mais également chez les prophètes, Isaïe, Jérémie, on trouve cette référence au potier. Voilà, c'est Dieu qui façonne lui-même ses créatures.
Oui.
C'est une très belle image d'ailleurs, biblique. Eh bien, chers amis, nous arrivons au terme. Et oui, ça passe vite en fait. Hein.
Mm-hmm.
Et en tout cas, je suis très content de vous avoir, Elisabeth, pour une fois en direct.
Oui.
C'était déjà sympa de recevoir les SMS.
Moi, c'est pareil.
Eh bien, en tout cas, merci à tous les deux. Merci Elisabeth, merci Jean-Mathieu.
Merci beaucoup.
Merci à ceux qui nous suivent, qui nous écoutent.
Merci Jean-Mathieu.
Oui, moi aussi, je vous remercie.
Merci à Marie-Laure qui nous a écrit.
Merci beaucoup.
Voilà, merci d'accord. À tous les deux. Merci beaucoup. À bientôt.
Merci beaucoup. Merci. Au revoir.
Et merci Sandrine.
Merci Jérôme.